Imagine, entrer dans un cinéma en plein milieu d'un film.
Ouais, le genre de truc qui arrive quand tu trouves pas de place pour te garer.
C'est ça. Donc tu rentres, l'écran s'illumine, et là, bam, il y a une énorme explosion, des voitures qui volent en éclats partout.
Ah, du coup, la conclusion immédiate, c'est de se dire, ok, on est dans un gros film d'action hollywoodien.
Exactement. Sauf que ben, le problème, c'est que depuis la toute première scène, c'était en fait un drame psychologique super complexe.
Oh, je vois.
L'explosion, c'était juste une métaphore ou genre un événement complètement isolé. Mais à cause de notre entrée tardive et de nos attentes, on se trompe totalement de genre.
Ouais, on plaque nos propres filtres sur ce qu'on voit. Et du coup, on passe à côté de tout le propos du réalisateur.
C'est clair. Et cette erreur de perception, c'est précisément ce qui se produit avec l'un des textes anciens les plus célèbres de l'humanité.
Le livre de Job.
Voilà. En parcourant l'imposante pile de documents, de notes et de publications académiques qu'on a partagées pour notre plongée d'aujourd'hui, il y a un nom qui ressort en permanence. C'est le docteur John Walton.
Un spécialiste très reconnu de l'Ancien Testament.
Ouais. Tout à fait. Et il a passé au crible ce fameux livre de Job, et plus particulièrement un passage extrêmement connu, Job 19, verset 25. La mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de démontrer comment un texte millénaire peut voir sa signification originale complètement, mais alors complètement effacée.
Effacée et réécrite par des filtres culturels tardifs, oui. C'est vraiment un cas d'école sur la mécanique de la désinformation involontaire au fil des siècles. L'enjeu dépasse de loin la simple petite correction académique, tu sais.
Ah ouais, c'est-à-dire ?
Bah, les recherches du docteur Walton révèlent comment l'information brute subit de vraies mutations. Quand un lecteur moderne aborde le livre de Job aujourd'hui, en fait, il lit pas le texte brut.
Il lit quoi alors ?
Il y a un texte qui est recouvert de couches et de couches épaisses de traditions accumulées, de théologies postérieures.
Des siècles de bagages, quoi.
C'est ça, et d'habitudes culturelles. Isoler la source originale, ça demande une méthode hyper rigoureuse. Il faut vraiment comprendre par quel mécanisme précis ces ajouts se sont greffés sur le manuscrit pour enfin pouvoir entendre ce que l'auteur ancien tentait réellement de dire.
À son public d'origine.
Exactement. Un public qui vivait dans un contexte radicalement différent du nôtre.
Bah justement, le point de départ de cette mutation, je trouve que c'est peut-être le truc le plus surprenant de tous nos documents. Pour arriver au sens véritable de ce Job 19-25, il faut affronter ce qui a déformé notre lecture en premier lieu.
Et c'est pas du tout ce qu'on pourrait croire.
Non.
Mmh.
C'est pas un grand concile théologique obscur qui a brouillé les pistes au Moyen-Âge. C'est la musique classique et un simple choix typographique.
C'est fou quand on y pense.
Ouais. En français, la traduction courante de ce verset, c'est « Je sais que mon rédempteur est vivant ». Ce mot « rédempteur », il a une résonance immense.
Une résonance presque écrasante même. Et elle n'est pas accidentelle du tout. Elle a été amplifiée à l'extrême par la culture populaire.
Par une œuvre en particulier, non ?
Oui, par le Messie de Handel. Au XVIIIe siècle, la musique classique monumentale de ce genre, ça fonctionnait un peu comme le média de masse par excellence. L'air inoubliable « I know my Redeemer lives », ça a vraiment ancré une certitude émotionnelle dans l'esprit du public.
À la fameuse mélodie qui reste dans la tête.
Voilà. Et une fois qu'une mélodie avec une telle puissance est associée à un texte, elle devient presque impossible à dissocier de la lecture purement intellectuelle. La musique a agi, en quelque sorte, comme un cheval de Troie interprétatif.
Un cheval de Troie émotionnel pour faire passer une idée, c'est puissant. Mais tu parlais aussi d'un mécanisme typographique ?
L'apparition de la lettre majuscule. Les traducteurs modernes ont pris la fâcheuse habitude d'écrire « rédempteur » avec un grand R.
Ouais, et visuellement, ça force le cerveau du lecteur à identifier immédiatement ce mot à une figure divine spécifique.
Jésus le plus souvent.
Parce que c'est la convention typographique du christianisme moderne, pour désigner le divin, quoi. Mais attends, j'ai un vrai problème de logique avec cette histoire de majuscule.
Vas-y, je t'écoute.
Si on remonte au manuscrit d'origine, l'hébreu ancien n'avait pas du tout de lettres majuscules. Ni de minuscules d'ailleurs. Tout s'écrivait de la même taille.
C'est tout à fait juste.
Donc insérer un grand R majuscule aujourd'hui, c'est purement subjectif. C'est le traducteur qui, des centaines d'années plus tard, décide d'imposer sa propre grille de lecture sur un mot tout à fait banal.
C'est exactement ce que souligne le docteur Walton.
Au fond, c'est un commentaire inséré en douce dans le texte lui-même, non ?
Le traducteur fait effectivement un choix théologique rétroactif. Il lit un texte très ancien à travers le prisme de croyances beaucoup plus récentes. L'auteur de Job, lui, n'a placé aucun indicateur visuel ou grammatical pour signaler qu'il parlait d'une entité divine suprême de la fin des temps.
Il n'y a rien dans le texte original qui dit « attention, ceci est une prophétie divine ».
Rien du tout. Et le docteur Walton insiste sur une preuve par l'absence qui est honnêtement accablante.
Laquelle ?
Aucun auteur du Nouveau Testament, pas un seul, ne cite ce passage du chapitre 19 de Job pour faire un lien prophétique avec Jésus.
Attends, vraiment, aucun ?
Aucun. Dans l'Antiquité, si ce texte avait été compris par tout le monde comme une prophétie claire et nette d'un sauveur messianique, les premiers écrivains chrétiens l'auraient inévitablement utilisé dans leurs argumentaires. C'était leur méthode standard.
Bah oui, c'est la base. S'ils avaient une preuve sous la main, ils l'auraient brandi.
Exactement. Et leur silence total sur ce verset, ça prouve de manière indéniable que cette interprétation messianique du passage de Job est une construction qui arrivait bien bien plus tard.
D'accord. Donc, si on récapitule, si on supprime ce grand air artificiel et si on éteint la musique de Handel en fond sonore, bah je me retrouve complètement perdu. Le texte parle quand même de quelqu'un ?
Oui, il attend quelqu'un.
Job est au fond du gouffre, il crie de douleur et il réclame quelqu'un de très précis. Si ce n'est pas un sauveur spirituel pour son âme, quelle est la fonction réelle de ce fameux personnage qui l'attend ?
Job réclame un représentant légal.
Un avocat.
Littéralement. Le mot hébreu qui a été traduit par « rédempteur », c'est le mot « goël ». Et pour bien saisir ce que ça implique, il faut vraiment plonger dans la mécanique des sociétés claniques du Proche-Orient ancien.
Ok, on est loin de notre système de justice moderne.
Très loin. Dans cette structure sociale qui était hyper pragmatique, il n'y avait pas d'État fort, il n'y avait pas de police, la survie économique et juridique, elle reposait entièrement sur la famille élargie.
L'attribu, le clan.
C'est ça. Le goël, c'était ce membre spécifique de la famille qui était désigné pour intervenir quand les choses tournaient mal. Par exemple, si quelqu'un devait vendre sa terre pour payer des dettes, le goël rachetait la terre pour la garder dans le clan.
D'accord. Une sorte de garant financier.
Oui, et si quelqu'un était assassiné, le goël devenait le vengeur du sang. Sa fonction n'avait absolument rien de spirituel. C'était un défenseur acharné des droits civils et familiaux.
Donc Job, qui se sent victime d'une injustice monumentale orchestrée par Dieu lui-même, il cherche un goël pour genre monter un dossier et plaider sa cause au tribunal.
Exactement. Il veut un avocat de la défense.
Mais c'est fou, ça change complètement le genre littéraire de notre analogie du cinéma. On est passé d'une quête spirituelle à un thriller juridique antique.
On est en plein drame judiciaire, oui.
Mais dans l'univers de Job, la question de l'identité de cet avocat, ça pose un immense problème logistique, non ? Les documents de recherche qu'on a lus recensent plusieurs théories étudiées par les spécialistes pour déterminer qui pourrait bien endosser sur lui.
La recherche académique a exploré plusieurs pistes. Par exemple, le commentateur D.G. Clines propose une interprétation très littéraire. Il dit que ce goël serait en fait une personnification du cri d'innocence de Job.
Un cri qui prendrait vie.
C'est l'idée, oui, que le cri lui-même prendrait vie de manière indépendante pour continuer à hanter le tribunal divin après la mort de Job.
C'est super poétique, mais ça manque un peu de consistance pour un tribunal, non ?
C'est le problème. C'est une belle image, mais elle peine vraiment à s'aligner avec le pragmatisme juridique qu'exige la fonction de goël. On a besoin de concret.
Alors, c'est quoi l'autre piste ?
Une autre piste, qui est beaucoup plus traditionnelle et répandue, affirme que ce goël que Job attend, bah, c'est Dieu lui-même.
Mais c'est complètement absurde sur le plan juridique.
Hein ? Pourquoi tu dis ça ?
Bah, toute la plainte de Job depuis le début du bouquin, c'est que Dieu l'attaque sans aucune raison. C'est comme si un individu poursuivait une immense multinationale pour licenciement abusif et harcèlement.
Ouais.
Et qu'au moment de choisir l'avocat pour le défendre au tribunal contre cette entreprise, il embauchait le propre PDG de cette même multinationale.
C'est un sacré paradoxe.
Ça n'a aucun sens. Le PDG, c'est la personne même qu'il est en train d'attaquer en justice.
Si on tire le fil de ta métaphore de la multinationale, la théorie traditionnelle s'effondre en elle-même, hein, c'est clair. Le PDG est effectivement assis sur le banc des accusés dans l'esprit de Job. Un avocat de la défense ne peut tout simplement pas être la partie accusée. C'est une impossibilité structurelle majeure.
Un conflit d'intérêts gros comme une maison.
Voilà. Du coup, le docteur Walton élimine cette option directement pour cause de conflit d'intérêts fondamental.
Ok, donc il reste quoi ?
Reste la solution terrestre évidente au vu de l'histoire du Proche-Orient ancien.
Trouver un membre de la famille.
Voilà, trouver un parent, un humain, pour jouer le rôle du goël. Mais le drame absolu de Job, c'est que le texte a pris soin de préciser que sa famille l'a totalement abandonné. Et ses amis, bah, ils l'accusent.
Ouais, on se souvient de ses amis qui sont pas super soutenants.
C'est le moins qu'on puisse dire. Plus loin dans le récit, il y a un personnage du nom d'Eliu qui fait son apparition et qui semble, au premier abord, vouloir prendre ce rôle de médiateur.
Ah, un espoir enfin !
Pas vraiment. La difficulté avec Eliu, c'est que son but n'est pas du tout de prouver l'innocence de Job. Bien au contraire, il cherche à le convaincre de son orgueil. Eliu ne veut absolument pas intenter un procès contre Dieu.
Ah, donc il travaille secrètement pour la partie adverse, quoi.
C'est un peu ça. et ça le disqualifie immédiatement en tant que Goël, selon les critères très stricts de Job.
Mais le tableau est terrifiant quand on y pense. Job exige un procès. Mais son cri abstrait ne suffit pas. Le PDG est l'accusé, sa famille l'a renié, les prétendus avocats de passage, comme Eliou, travaillent pour la concurrence. Il n'y a plus aucune option disponible sur la surface de la terre entière.
Aucune.
Mais comment il fait pour trouver un avocat s'il n'y a littéralement plus personne ?
Eh bien, c'est ici que l'analyse du Dr. Walton nous fait basculer dans la véritable dimension du livre. Puisque la terre est vide de tout soutien, Job est acculé. Il doit lever les yeux vers le conseil d'administration de la fameuse multinationale.
Vers le ciel ?
Exactement. Il cherche son avocat au sein même de la cour céleste. Tu sais, dans la pensée du Proche-Orient ancien, Dieu n'est pas un monarque isolé qui gère l'univers tout seul dans son bureau.
Ah oui, le concept du conseil divin.
Oui, il est entouré d'un conseil divin, une sorte d'assemblée d'êtres spirituels qui participent activement à l'administration du cosmos. La théorie de Walton, c'est que Job espère désespérément qu'un membre de ce conseil céleste se détachera du lot, descendra prendre son dossier en main et remonterait pour affronter Dieu directement dans ses hautes instances judiciaires.
C'est audacieux.
Très. Surtout que l'idée d'un médiateur céleste n'est pas nouvelle dans le livre. Le personnage d'Eliphaz l'avait évoqué plus tôt, pour la balayer d'un reverdement.
Ah, Eliphaz avait dit que ça n'arriverait jamais.
Oui, il soutenait que aucun membre de cette cour ne prendrait jamais le risque d'intercéder pour un misérable petit humain face au Créateur. Mais Job, n'ayant plus rien à perdre, s'agrippe à cette possibilité infime.
Mais attends, l'ironie de cette situation est complètement ahurissante.
Oh, t'as remarqué ?
Ben oui, Job met tous ses espoirs dans la cour céleste. Mais nous, les lecteurs qui avons accès au tout premier chapitre du livre, on sait quelque chose de crucial que lui, il ignore totalement.
Que le responsable de ses malheurs vient précisément de cette même cour.
C'est ça, c'est le sommet de la tragédie dramatique.
Totalement. Job réclame qu'un membre du conseil divin devienne son lanceur d'alerte. Or, le lecteur sait pertinemment que c'est un membre de ce même conseil, une figure que le texte original appelle le challenger ou l'accusateur.
Celui qu'on appelle souvent Satan dans la tradition populaire.
Voilà, c'est lui qui a déclenché tout ce cauchemar. C'est ce challenger qui a remis en question l'intégrité de Job devant Dieu, poussant le conseil à autoriser sa ruine. Job est donc en train d'appeler à la rescousse l'institution même qui a voté et organisé sa destruction.
C'est d'un cynisme incroyable. Et poussons ce scénario juridique jusqu'au bout, parce que les conséquences sont juste vertigineuses.
Vas-y.
Imaginons que Job gagne. Il trouve cet avocat céleste, rebelle. Ils montent ensemble un dossier irréfutable. Ils prouvent par A plus B, devant le tribunal de l'univers, que Dieu a commis une erreur judiciaire grave en torturant un homme innocent. S'il gagne son procès contre le Créateur, il détruit de facto la crédibilité de l'univers tout entier, non ?
C'est exactement ça. Le remède est pire que le mal.
Il scierait la branche sur laquelle l'univers est assis.
Le docteur Walton met vraiment le doigt sur ce danger théologique absolu. Si un tribunal indépendant pouvait statuer et condamner Dieu pour injustice flagrante, alors l'essence même du divin s'effondrerait sur le champ.
Bah oui, un Dieu injuste n'est plus Dieu.
Un Dieu coupable d'une faute morale avérée perd instantanément son statut de garant de la justice universelle. Il devient indigne d'adoration. La fondation éthique du monde s'écroulerait. La victoire de Job signifierait la défaite de Dieu. Et par extension, le chaos cosmique total.
C'est une stratégie légale d'une dangerosité sans nom. Un jeu à somme nulle où personne ne peut sortir véritablement vainqueur.
C'est exactement ça.
Mais, tu sais, ça clarifie une distinction capitale qui bouleverse complètement notre lecture moderne. Une fois qu'on saisit les enjeux cosmiques de ce procès, on réalise à quel point la vision traditionnelle, celle d'un sauveur de l'âme, est en contradiction frontale avec le texte.
Oui, il y a un malentendu géant.
Il faut qu'on parle de l'immense fossé qui sépare la recherche de disculpation de la recherche de pardon.
C'est vraiment le cœur de la thèse présentée dans les documents de Walton. Il faut revenir strictement à la définition mécanique d'Hugo Yoel. Cet avocat intervient pour réparer un tort qui a été subi par la victime. Il ne se lève jamais au tribunal pour excuser un tort que son client aurait commis.
Ah, nuance fondamentale.
Job est inébranlable sur un point. Depuis la première page, il est innocent. Il n'a rien fait qui mérite la perte de ses enfants, la perte de ses biens et la destruction de sa santé.
Il ne demande pas la clémence. Il demande la justice.
Exactement. Il exige qu'un Goyel rassemble les pièces à conviction pour l'exempter de toute culpabilité. Il ne cherche absolument pas quelqu'un pour expier ses péchés. C'est pour cette raison précise que l'insertion de la figure de Jésus dans Job 19 est un anachronisme qui détruit l'architecture même du livre.
Parce que les rôles sont opposés.
Oui. Dans la théologie chrétienne ultérieure, le rôle de Jésus, c'est de résoudre le problème du péché humain par le biais du pardon. Le rôle du Goël, que Job attend, c'est d'obtenir une victoire juridique totale sur de fausses accusations. Job cherchait la vindicte. Il ne veut surtout pas de pardon.
C'est comme un accusé au pénal qui refuse catégoriquement de plaider coupable en échange d'une peine réduite.
C'est une très bonne analogie.
Si Job accepte de dire « pardonnez-moi pour mes fautes », il détruit sa propre défense. Ses amis passent des chapitres entiers à essayer de lui arracher des aveux.
Oh que oui.
Ils lui disent en gros que s'il souffre, c'est qu'il a forcément caché un crime. S'il demande pardon à Dieu, il leur donne raison. Il valide l'idée que sa souffrance extrême est une punition justifiée.
L'enjeu de son intégrité, il est totalement là. Demander grâce reviendrait à un aveu de culpabilité, ce qui validerait la théorie de la rétribution stricte défendue par ses amis. Tu sais, le fameux « on récolte ce qu'on sème ».
Ouais, le karma antique, quoi.
Voilà. Job maintient que le système a dysfonctionné. Il veut que son innocence soit officiellement gravée dans le marbre du tribunal céleste. Essayer de transformer ce cri de révolte exigeant la justice en une douce prière de repentance pour obtenir le salut de l'âme.
C'est un contresens.
C'est priver le personnage de Job de sa voix. C'est effacer la question très gênante qu'il pose au profit d'une réponse réconfortante mais qui est complètement hors sujet par rapport au texte original.
Et d'ailleurs, cette exigence de justice immédiate, ça donne un éclairage presque insoutenable à la deuxième moitié du verset, qui est si célèbre, le fameux « Et après que ma peau aura été détruite, dans ma chair, je verrai Dieu ».
Ah oui, ce passage-là.
Avec la musique classique dont on parlait au début, on imagine généralement une âme apaisée, tu sais, qui quitte son corps abîmé pour s'élever vers la lumière de manière très sereine après la mort.
C'est l'image d'Épinal.
Mais dans le contexte d'une plainte pénale d'urgence, de ce thriller judiciaire antique, cette image paisible n'a plus aucune place.
Aucune. La réalité du texte, elle est viscérale, crue et profondément ancrée dans l'agonie physique présente de Job. Le docteur Walton dissèque vraiment les interprétations habituelles de cette phrase.
Quelles sont les options du coup ?
Bon, la lecture chrétienne tardive y voit l'attente d'une résurrection des corps à la fin des temps.
Logique avec leur filtre.
Sauf que l'étude linguistique de l'Ancien Testament à cette époque précise ne fournit aucune preuve d'une théologie de la résurrection corporelle chez les Hébreux. Ça n'existait pas encore sous cette forme.
D'accord.
Une autre lecture propose que Job espère une justification posthume, genre l'histoire reconnaîtra son innocence bien après son enterrement. Mais en étudiant la grammaire exacte du passage hébreu, le docteur Walton démontre que Job réclame un sursis de dernière minute.
Un sursis de son vivant ?
Oui. Il exige que l'intervention légale se produise de son vivant, avant qu'il ne rende son dernier souffle.
Waouh ! L'image est d'une violence inouïe, si on se rappelle la condition physique du personnage à ce moment-là du récit.
Ah, ça c'est sûr.
Job, il n'est pas étendu sur un lit confortable, entouré de draps propres, en train de dicter sagement ses mémoires.
Non, il est dans la boue.
Il est assis sur une décharge publique, littéralement au milieu des cendres. Il souffre d'une maladie de peau tellement purulente et insupportable qu'il utilise un morceau de poterie cassée pour se gratter jusqu'au sang.
C'est la scène décrite dans les chapitres précédents, ouais.
Du coup, est-ce que cette phrase « après que ma peau aura été détruite », c'est une métaphore poétique ou est-ce qu'il décrit littéralement l'action d'utiliser ce tesson pour s'arracher la peau en temps réel ?
L'analyse de Walton pointe vers une réalité terriblement littérale. Le texte décrit un homme en train de s'écorcher vif. C'est une hyperbole dramatique, certes, mais fondée sur son action immédiate.
C'est glaçon.
Job est en train de dire en substance « je vais continuer à gratter cette infection, je vais arracher cette peau nécrosée, et même s'il ne me reste presque plus rien sur les os, tant qu'il y aura un misérable souffle dans cette chair mutilée, je refuserai de mourir. »
Il refuse de lâcher l'affaire ?
Il impose un ultimatum. Il s'attend à ce que cet avocat céleste atterrisse là, physiquement, au milieu des mouches et du fumier. Quand il clame « je verrai Dieu », dans le lexique juridique royal de l'époque, ça avait un sens très précis.
Lequel ?
Ça signifiait obtenir une audience formelle, être restauré dans son statut et ne plus être traité comme un ennemi ou un paria. Job a l'audace, alors même que son corps se désintègre en direct, d'exiger que l'univers suspende sa course et descende dans une putain de décharge pour prononcer un acquittement avant qu'il n'expire.
C'est incroyable. La rupture avec la version édulcorée du chant classique, elle est totale. On découvre pas un saint serein, mais un homme acculé qui lance un défi monumental aux structures mêmes de l'univers.
C'est un acte de rébellion absolue.
On comprend beaucoup mieux l'importance de l'analyse d'aujourd'hui, du coup. Plaquer un dogme ultérieur sur ce récit, c'est carrément l'étouffer.
Totalement.
Jésus est la réponse que la Bible chrétienne apporte au problème de la faute morale humaine. Mais le livre de Job n'a jamais, au grand jamais, été écrit pour régler le problème du péché.
c'est une distinction qui est vitale pour la rigueur intellectuelle. Le livre de Job, il a été conçu pour explorer la douleur inintelligible de la souffrance imméritée. Il affronte frontalement le sentiment d'abandon et la perception d'un univers hostile ou d'un Dieu injuste lorsque nos vies s'effondrent sans aucune explication logique.
Sans rime ni raison.
Voilà. Si on force ce texte ancien à parler de salut de l'âme, on détruit l'outil philosophique unique qu'il représente. Une véritable curiosité intellectuelle exige de laisser la grammaire ancienne imposer ses propres règles.
Même si ça bouscule nos certitudes.
Surtout si ça les bouscule. Il faut accepter que certains textes historiques ne répondent pas aux questions rassurantes que nous voulons leur poser, tu vois. Ils posent plutôt des questions dérangeantes que, bien souvent, nous préférerions éviter.
Pour revenir à notre salle de cinéma du tout début, on était convaincus de regarder un film au scénario limpide, avec un sauveur spirituel garantissant une fin heureuse post-mortem.
Et finalement ?
L'exploration des sources vient de nous révéler qu'il s'agit en fait d'un thriller judiciaire apocalyptique se déroulant dans une décharge publique avec un protagoniste couvert de plaies qui force le silence de l'univers à admettre ses erreurs de procédure.
C'est une sacrée différence de script.
Le changement de perspective est radical. Et franchement, cela soulève une réflexion finale qui dépasse largement le cadre de ce seul manuscrit biblique.
Je t'écoute.
Mais si la compréhension collective d'un texte aussi fondateur a pu être manipulée en profondeur pendant des siècles, simplement par l'ajout artificiel d'une lettre majuscule et par le pouvoir d'une symphonie très accrocheuse du XVIIIe siècle, quelles autres certitudes inébranlables de notre quotidien ne sont au fond que des illusions ?
C'est une excellente question.
Que ce soit dans les manuels d'histoire, les vulgarisations scientifiques ou même les grands discours politiques de notre époque, combien de prétendues évidences ne sont en réalité que de très belles mélodies, habilement composées pour masquer une vérité brute et infiniment plus complexe.
Ça donne à réfléchir sur comment on consomme l'information.
Exactement. Ne nous fions plus jamais uniquement à la beauté de la bande originale. Allons lire le script original.